Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire sur les bénédictions qu'on a en Jésus. Dans le nouveau chemin que Jésus a frayé, des fois, ça ne nous dit pas grand-chose ou ça nous intéresse peut-être pas, mais pour tous ceux que ça l'intéresse, je vais vous le dire. Il y a un paquet de bénédictions que si on répond à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus, d'aller à lui pour rentrer. Parce que vous savez, Jésus l'a dit, il y a une porte à trouver puis un chemin à trouver. Il a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Il faut trouver la porte, puis là, nous, on l'a trouvé, on le sait que c'est Jésus la porte. Jésus l'a dit, je suis la porte, puis mes brebis entrent par moi. Mais tous ceux qui rentrent par ailleurs, c'est des voleurs et des brigands. Mais quand tu rentres, faut que tu trouves le chemin, puis tu demeures dans le chemin. Mais ce chemin-là, c'est le nouveau chemin que Jésus a inauguré à cause de sa mort sur la croix et sa résurrection. Il était le premier à rentrer dans les lieux célestes après sa résurrection, puis il était porté son sang devant le trône du Père. Puis c'est ça qui nous donne accès à rentrer dans la présence de Dieu. C'est le nouveau chemin qu'on est rentré, qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il y a des chemins larges qui sont les religions, le monde, toutes les activités. Ça, c'est le chemin large. Mais le chemin du Seigneur, là, il y a plein de bénédictions. Ce qu'on voit, on va voir aujourd'hui, c'est un sujet qu'on en parle une fois de temps en temps. Le titre, c'est « Yeshua nous a libérés de la malédiction puis de la condamnation ». La condamnation, ça, on en parle très souvent, qu'on n'est plus condamné, on est sauvé, on est en Jésus. Tout ça, on va le voir quand même en certains versets. Mais délivrer des malédictions, ça, on n'est pas toujours conscient de ce qui était sur nos épaules. Parfois, les gens marchent inconscients des malédictions puis de la condamnation qui pèse sur leurs épaules. T'arrêtes sur la rue, demande-les à quelqu'un, tu sais-tu qu'il y a des malédictions sur toi? Le monde ne sait même pas de quoi ce qu'on parle. Pourtant, Jésus est venu pour nous délivrer de nos malédictions. Puis, je ne veux pas faire de pari, là, puis je ne veux pas affirmer des affaires, mais je suis sûr aussi que ce n'est pas tous les chrétiens qui savent qu'il y a eu des malédictions, qu'il y avait des malédictions sur eux avant de venir au Seigneur. Ces malédictions-là sont sur tout l'ensemble de l'humanité. On le sait, parce qu'on le voit dans la Bible, c'est écrit. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle encore parce que ça fait partie de l'étude de ce que je suis en train de vous amener, de chacun des points qu'on reçoit, soit de délivrance ou de guérison ou de bénédiction qu'on reçoit en Jésus dans le nouveau chemin. Vous savez que depuis Adam et Ève, il y a plusieurs graves malédictions qui sont tombées sur l'ensemble de l'humanité. Quand on dit des malédictions, c'est maldiction, c'est des paroles, des dictions, c'est des paroles mauvaises. Que quand elles sont prononcées pour tomber sur une ou des personnes, ces paroles mauvaises-là vont tomber puis vont s'accomplir. Surtout si c'est Dieu qui les a données. Des fois, on pense souvent en voyant des films, c'était « Oh, la sorcière » ou « le vaudouisant qui lance des malédictions sur les autres, qui sont des mauvaises paroles lancées sur les autres. » Ça, on voit ça ailleurs. Mais les malédictions qui viennent du monde, les malédictions sans cause, n'ont pas d'effet sur un enfant de Dieu. Mais les malédictions qui viennent de Dieu, ça tombe sur n'importe qui. Puis ça, quand c'est tombé là, ça demeure, puis ça s'accomplit. Ça ne peut pas ne pas s'accomplir. Fait que Dieu en avait lancé plein de malédictions, des mauvaises paroles, qui sont des conséquences. C'est des conséquences qui demeurent. Mais Dieu nous a donné un seul moyen pour s'en sortir. Une seule manière pour pouvoir sortir, pour être délivré de ces malédictions-là. Pour en énumérer quelques-unes, on va regarder certains passages qui viennent de la Genèse, là. Une des plus grosses malédictions qui est tombée sur l'humanité en entier, puis là, en réalité, ils ont tombé sur tout le monde, là, mais je peux me répéter que ça tombe sur l'humanité en entier, parce que en disant ça, je veux qu'on réalise que tout le monde que tu vois se promener sur la rue, ça naît des gens qui sont sous la malédiction. Puis le pire, c'est que tout le monde aussi qui sont assis dans l'Église du Seigneur, qui sont sauvés aujourd'hui, étaient sous ces malédictions-là aussi. La mort spirituelle. Ça, ça nous a été donné là à toute l'humanité. C'est la pire. D'être déconnecté d'avec Dieu, c'est une malédiction, ça. La mort, quand on dit mort là d'une personne qui meurt, c'est que son âme est sortie de son corps. Ça, c'est la mort physique. Mais quand on parle de la mort spirituelle, c'est Dieu qui est pas en communion avec une personne. Une personne qui est séparée de la présence de Dieu, c'est un vivant qui est mort spirituellement. Il est déconnecté d'avec Dieu. Un corps qui est qu'un homme qui est déconnecté de son corps, c'est qui est mort, il est appelé mort. Un humain qui n'est pas en communion avec Dieu, qui est séparé d'avec Dieu, c'est un mort spirituellement parlant. Quand que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont resté debout, puis ils se parlent encore. Mais Dieu parlait pas de la mort physique, là. Il parlait de la mort spirituelle, le fait d'être déconnecté d'avec Dieu. Puis c'est ça qu'ils ont eu. Puis le pire, c'est que cette mort-là, c'est une malédiction. Dieu leur a dit qu'il va arriver ça comme conséquence si vous en mangez. C'est ce qui est arrivé, puis ça s'est étendu sur l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité vient au monde séparé d'avec Dieu. L'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que la Bible elle nous parle que tu peux naître de nouveau, puis tu naîtres d'en haut, puis recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas à la naissance. Oui, il a pu te parler pareil depuis ta naissance. Il a pu te dire des affaires, Dieu. Mais on était tous des âmes déconnectées d'avec Dieu. Puis ça, c'est la mort spirituelle. Puis l'ensemble de l'humanité vit cette malédiction-là qui s'est répandue sur tous. Dans Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, ils ont été séparés d'avec Dieu cette journée-là. Dieu pouvait continuer à lui parler. Ça n'empêche pas que Dieu lui parlait, mais il était séparé d'avec Dieu. Il a perdu leur communion intérieure dans leur esprit avec Dieu. C'est ça la séparation, c'est la mort spirituelle. La Bible parle de plusieurs sortes de morts, là, mais ça, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est différentes malédictions qui pèsent sur chaque individu. Une autre malédiction qui a été donnée depuis cette période-là, les souffrances pour l'enfantement, des problèmes relationnels entre l'homme et la femme, c'était d'autres malédictions que Dieu a prononcé. Dans Genèse 3,16, Dieu a dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça l'a créé un effet, un impact dans les foyers. C'était plus pareil comme avant, comme les deux se voyaient, les deux s'aimaient, t'as deux tourtereaux qui marchent ensemble, puis il n'y a pas de combat, de conflit entre les deux. Mais à partir de là, il y a eu quelque chose que Dieu a prononcé, puis que ça a fait que les femmes ont plus de douleur quand ils enfantent, puis un autre, c'est les désirs de la femme à vouloir embarquer par-dessus son mari, puis l'autre, que l'homme qui domine sa femme, puis il y en a que ça, c'est à coup de poing, pas à coup de pied. Mais tout ça, c'est des conséquences. C'est pas Dieu qui fait ça, mais c'est Dieu qui a prononcé ces choses-là. Si ça n'aurait pas été ça, ça n'aurait pas arrivé, ces choses-là. S'il n'y aurait pas eu la désobéissance, ça n'aurait pas arrivé. C'est des conséquences. Les malédictions, c'est des paroles que Dieu a prononcées, puis qui a amené des conséquences négatives dans la vie de toute l'humanité. Une autre malédiction qui a été dit, c'est que le sol sera maudit. que le travail sera difficile à gagner notre pain. On sera privé l'humanité a été privée des bénédictions qu'il y avait dans le jardin d'Éden, les arbres de toute espèce de fruits puis d'abondance qui poussaient. Il y avait juste besoin de le cultiver. Tout poussait. Là, après ça, ils ont reçu une malédiction que le sol, il produirait des épines et des ronces, puis c'est à force de peine que tu vas tirer de la nourriture tous les jours de ta vie. Puis tout ça, ça a été sur l'ensemble de l'humanité depuis le début. Alors, regardez bien. Puis en plus de ça, dans le même texte-là, ça parle aussi de la mort physique de l'humain, qu'il est tanné de poussière, puis il était pour retourner dans la poussière. C'était une autre conséquence qui était donnée à l'humanité. Dans Genèse 3, 17, ça nous dit, « Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » On voit là-dedans que la malédiction venait de Dieu, puis Dieu a maudit le sol. Il a lancé une parole qui fait que le sol, ben, ça sortait plus comme dans le jardin d'Éden. Là. Ça poussait plus de même. Là, c'était à force pour pouvoir faire sortir quelque chose de bon. Il dit, c'est à force de peine que tu retireras ta nourriture fait que, tous les jours de ta vie. Fait que l'humanité en entier là, a souffert de la faim. Là, aujourd'hui, ici, dans notre pays, on a un pays qu'on appelle un pays d'abondance, mais il ne faut pas oublier que notre abondance est due à l'endettement. C'est de l'endettement du gouvernement pour produire un paquet d'abondance qui sont virtuelles dans un sens, parce qu'on n'a pas les moyens de payer le gouvernement endette pour qu'on vive cette abondance-là. C'est une abondance artificielle. L'argent rentre, même si tu travailles pas, c'est pas normal, ça n'a jamais été de même. C'est rien que dans les 50 dernières années, là, ben, je dis 50, c'est un chiffre à peu près, là, ça fait pas si longtemps que ça. Avant ça, nos grands-pères travaillaient fort pour cultiver, puis nos arrière-grands-pères encore plus, puis tout était à mitaine, là, couper le bois, puis rentrer le bois, puis chauffer l'hiver, puis tout était dur. La vie a été dure à travers tous les siècles. Puis si on va dans d'autres pays, on va en trouver présentement des pays qui n'ont pas d'argent, qui s'endettent pas, mais ils n'ont rien, puis ils ont de la misère à avoir un repas par jour. Ça existe aujourd'hui. Puis ça, c'est les conséquences de la malédiction de Dieu sur l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève. C'est grave. Puis là, regardez dans le texte où on est rendu, dans le verset 23, il dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il le cultive, ou pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, puis qu'il met en Orient, du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Fait qu'ils ont été jetés dehors, ils ont été éloignés, puis ils ont été même empêchés de pouvoir retourner à retrouver ce chemin-là pour retourner dans le jardin. Ils étaient sur une malédiction. Dieu les avait privés de retourner là. Puis dans un autre verset autour de cela, il dit, au verset 18, il dit, « Tu produiras des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, puis tu retourneras à la poussière. » C'est là qu'il fallait qu'il travaille fort, qu'il cultive, à force de peine et de misère, au lieu que ça pousse quasiment tout seul, juste en prenant les grains, puis ça aurait poussé tout seul. On aurait été dans une abondance extraordinaire. Aujourd'hui, c'est dans la misère, puis la pauvreté, puis il y a bien des places qui mangent pas. Puis en plus, la malédiction de dire, tu es poussière, tu vas retourner en poussière, il est à condamner à finir par mourir. En étant privé de l'arbre de vie, il n'a pas le choix, son corps s'est usé, puis il a fini en retournant dans la poussière. On était aussi privé du jardin de délices, privé de l'arbre de vie qui nous donne la vie éternelle terrestre. Ça, c'est encore des malédictions que tout l'ensemble de l'humanité a eues. Puis Dieu dit, dans le verset 22 de ce même paragraphe-là. C'est au chapitre 3 de Genèse, c'est là qu'on voit toute l'histoire d'Adam et Ève, puis les conséquences qu'ils ont eues. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, puis de prendre de l'arbre de la vie, puis d'en manger, puis de vivre éternellement. » Fait qu'il y avait une possibilité de vivre dans notre corps une vie éternelle. Mais ils en ont été privés, puis ils ont été chassés du jardin. Puis c'est là, dans le texte que j'ai lu tantôt, l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Puis c'est ainsi qu'il chassa Adam, puis il met à l'Orient les chérubins pour garder le chemin, puis les empêcher de revenir. Ils pouvaient plus prendre de l'arbre la vie, puis de vivre éternellement. C'est des malédictions graves, parce que c'est des malédictions qui amènent à la mort. Mort spirituelle, mort physique, puis ça vient de s'éteindre. En plus de ça, on voit dans les révélations qu'en plus de ça, un retour à la vie pour le jugement. Si on voit ça dans les révélations plus loin, pour être jugé, puis d'être condamné à l'étang ardent de feu et de soufre, pour ceux qui sont morts séparés d'avec Dieu, puis que l'ensemble de l'humanité sont venus au monde séparés d'avec Dieu. L'apôtre Paul, lui, a fait une comparaison entre les conséquences du péché d'Adam puis l'œuvre de Christ. Dans Romains 5, le verset 16. L'apôtre Paul, il dit, « Il n'y en est pas du don du Seigneur comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. » Là, on parle d'Adam et Ève. Il est en train de comparer Adam, là, un seul qui a péché puis il y a eu plein de conséquences graves. Ces malédictions-là sont sur l'humanité. Car c'est après une seule offense, l'offense d'Adam, que le jugement est devenu condamnation. Une seule offense, l'offense d'Adam, a amené une condamnation complète. Puis là, il continue, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Là, il parle de l'œuvre de Jésus, que même si tu en as fait plusieurs offenses, ben, tu vas être justifié, même après en avoir fait plusieurs. Mais la malédiction a commencé juste après une seule offense. Puis là, il continue dans son idée. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Un seul qui a fait une offense, Adam, puis la mort a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Là, on voit que la bénédiction est bien plus grande sous Jésus que ce qui est arrivé là. Ainsi, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes sur cette terre sont sous cette malédiction. Un seul péché, Adam, a amené une condamnation sur tous les hommes. Tout le monde vient au monde condamné à cause d'Adam. C'est ce qu'on appelle, pas nous, là, mais l'Église catholique appelle ça le péché originel. Mais ça existe dans cette vision-là des choses, que le péché de l'origine, le péché d'Adam, a amené une condamnation sur tout l'ensemble de l'humanité. Puis je vous disais tantôt que l'ensemble de l'humanité est sous des malédictions et la condamnation. Puis personne ne le sait. On ne le savait pas avant d'être chrétien. On l'a su en lisant la Bible et en écoutant les enseignements. On ne le savait pas. Tout le monde est dans l'ignorance des malédictions de Dieu qui sont sur l'humanité. Mais Dieu nous a donné le moyen de s'en sortir. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est offert à tout le monde de pouvoir être justifié à cause de l'œuvre de Jésus. C'est au conditionnel à ce qu'on y aille le chercher, puis qu'on garde cette foi-là jusqu'à la fin. car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Gloire à Dieu. C'est ça le nouveau chemin, la possibilité qu'on a de pouvoir être déclaré juste, de pouvoir être libéré de la condamnation, être libéré des malédictions. C'est grâce à Jésus qu'il y a une possibilité. La condamnation atteint tous les hommes. En plus, l'humanité est contaminée par les malédictions dues à nos propres péchés. Parce que c'est bien beau de dire c'est la faute à Adam et Ève, mais c'est pas rien que la faute à Adam et Ève. L'ensemble de l'humanité a fait plein de péchés, puis ils sont tous des malédictions de Dieu par chaque parole que Dieu a prononcée. S'ils sont pas sauvés, ils sont sous les malédictions de Dieu, les paroles mauvaises. Alors regardez bien dans 2 Pierre 2,14, ça parle de certains, des personnes pécheresses, là. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Les gens sont pas capables d'être rassasiés à dire j'en ai assez fait de péché. Ils en font toujours plus de péché. Mais il amorce les âmes mal affermies, ça veut dire qu'il essaie d'attirer les chrétiens à lâcher d'être chrétiens et à retourner dans leur péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, c'est des gens qui pensaient qu'à s'enrichir et à vivre le gros luxe. Ce sont des enfants de malédiction. On voit que l'ensemble de l'humanité qui marche sans Dieu puis qui marche en dehors du chemin de Dieu, ils sont des enfants de malédiction. Par Dieu. Je parle pas nécessairement par le diable. La Bible a dit que nous étions tous des enfants de colère dus à nos péchés et à nos iniquités. Faut pas penser qu'on est meilleur que les autres. Je le répète souvent, c'est avec cette idée-là, pour enlever tout orgueil de nos cœurs, de nos pensées. On n'est pas mieux que les autres. On est à 100% pareil. Puis c'est une grâce qui nous a été faite de sortir des conséquences de ce que c'était. Éphésiens 2,3, ça dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, parce qu'on a deux volontés qui mènent l'humain, la chair et nos propres désirs, notre propre pensée. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était sous la colère de Dieu comme les autres. Ça veut dire que les malédictions puis la condamnation étaient sur nous comme les autres. On n'a rien, on n'est pas meilleur. Beaucoup de personnes sont conscientes de leur état de pécheur. Parce que là, à un moment donné, on a quand même la connaissance du bien et du mal, même si cette connaissance-là est défaillante sur bien des points, là, elle ne connaît pas toute notre sensibilité à discerner individuellement le bien et le mal, là, par notre connaissance du bien et du mal humaine, là, est limitée. Ben on n'aime pas ce qu'on n'aime pas se faire, puis on aime ce qu'on aime faire. On est limité à comment est-ce qu'on voit les choses. Si ça ne nous affecte pas, on s'en fout, mais pourtant Dieu a bien déclaré des choses qu'il ne veut pas que personne touche à ça, mais ouais, puis là, ils vont dire il faut en prendre, il faut en laisser, ou bien ça, c'était dans ce temps-là. Fait qu'on trie. Le monde trie avec leur conscience du bien et du mal. Mais il y en a qui sont quand même conscients qu'ils ont volé la semaine passée quelqu'un de leur chum, puis ils les ont reprochés. Mon cher, tout de suite, a oublié nos crimes. Hein? On veut pas y penser. Mais il y en a des fois que ça, ils pensent à leurs crimes, puis ça les suit. Puis il y en a qui, en plus, ils ont une conviction de péché produite par le Saint-Esprit, qui veut les amener à la repentance. Fait que il y a différents degrés de soit d'acceptation ou de combat dans le cœur des gens face à leur propre péché. On n'est pas tous pareils. Il y en a que ça les dérange pas, ils ont tué du monde, puis ils sont prêts à en tuer d'autres, puis il y en a d'autres qui ont de la misère à tuer une mouche parce qu'ils pensent que c'est mal. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes de leur état de péché, puis cela est marqué dans leur conscience du bien et du mal. Dans Tite 1,15, Ça dit, tout est pur, c'est Dieu qui déclare ça, là. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ça veut dire, souillé, ça veut dire sale. Leur intelligence est sale, puis leur conscience est sale. Même s'ils s'en rendent pas compte, même s'ils l'avouent pas, les gens, il y en a qui sont conscients que certaines affaires marchent, et certaines affaires marchent pas dans leur vie. Mais pour Dieu, tout est sale. Tout est sale. Dieu, quand une personne suit pas Dieu, parce qu'elle s'est pas engagée, peu importe ton degré de mal que tu acceptes dans ta vie, même s'il y en a qui disent, oh, je fais juste compter une petite menterie blanche, une petite menterie blanche de temps en temps, juste pour essayer des fois pour m'en sortir. Puis ils pensent que c'est blanc, mais pour Dieu, c'est pas blanc, c'est souillé, c'est sale, c'est un mensonge, c'est un des 10 commandements de Dieu. Mais le péché est dans le monde, puis Dieu il déclare tous ceux qui sont pas sauvés, il les déclare sales. Intelligence et conscience sales. Puis en plus, les gens ne savent pas qu'ils sont dans un état de condamnation. Ils s'en rendent même pas compte. Pourquoi j'accepterai Jésus? Je suis correct. Oh, Dieu est tellement bon, il va pardonner tout le monde. Tous les faux raisonnements que le monde essaye de justifier avec ça, ça fait juste démontrer leur ignorance de ce que Dieu a déclaré. Dieu a déclaré que l'ensemble de l'humanité sont coupables. L'ensemble de l'humanité est dans le péché. Le péché est entré dans le monde par le péché, la mort. Puis la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est un autre verset. Même si on pense qu'on est correct devant Dieu, c'est juste parce qu'on est ignorant de ce que Dieu a déclaré. On se fie à ce qu'on pense plutôt de se fier à ce que Dieu écrit dans sa parole. Dieu il déclare dans Marc 16:16, celui qui croira puis qui sera baptisé, se baptiser, ça veut dire qu'il s'est engagé à suivre Jésus, là, il va être sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On voit que la condamnation est automatique sur tous ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. Pas le choix. On ne peut pas nier cela, c'est écrit. Dieu l'a donné, cette déclaration-là, puis on voit que l'ensemble de l'humanité qui ne suit pas Dieu sont sous la malédiction, puis en plus, sous la condamnation. D'autres essaient d'être pardonnés puis libérés par la loi de Moïse. On se retourne à la loi de Moïse, mais on commence à pratiquer les 613 préceptes. On revient souvent aussi sur cette idée-là. Mais ceux qui pensent à retourner se faire circoncis puis de pratiquer la loi de Moïse, mais ils aggravent le cas. Parce qu'en plus d'être sa malédiction d'Adam et Ève, ça dit dans Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Fait qu'ils pensent de retourner à la loi de Moïse, ils disent, je vais pratiquer les 613 préceptes, puis je vais être sauvé. Non. Parce que ça, c'était juste pour montrer c'est quoi qui est à péché. Fait que la minute que tu penses d'être sauvé par ça, puis tu vas te rendre bien vite compte, t'es pas capable de pratiquer les 613 préceptes, mais automatiquement, tu es sous la malédiction. Une autre malédiction de plus qui se rajoute parce que la loi de Moïse a jamais sauvé personne. Ça a toujours été la foi qui sauve et non pas la loi. Abraham, il était sauvé par la foi. Bon, c'est par la foi que Dieu a décidé d'établir le salut et non par la loi. Je dis pas qu'en Jésus, il n'y a pas de loi. Il y a des lois, mais c'est pas la loi de Moïse qui sauve. C'est la loi de Christ. Qui est croire dans l'œuvre accomplie du Messie, puis de s'engager à le suivre lui. C'est ça, le suivre sa parole. C'est ça le chemin, pas la loi de Moïse. Fait que tous ceux qui s'attachent à la loi de Moïse, ils aggravent le cas, parce qu'ils retombent sur une malédiction de plus. Toutes les malédictions de la loi, ça disait, maudit est quiconque qui ne met pas tout en pratique. Fait qu'il fallait tout mettre en pratique pour y arriver, c'était impossible. D'autres y essayent par des rituels puis des religions à obtenir une purification de leur conscience. Ils savent qu'ils sont pécheurs puis ils pensent qu'avec leur religion, ils vont finir par obtenir des pardons. Ils vont voir le curé, ils confessent toute leur série de récitations des mêmes péchés à tous les semaines. Puis des fois, on ne sait même pas c'est quoi que Dieu a déclaré. C'est un péché, ils savent pas, on les sait pas, ils sont ignorants à Dieu. Ils se fient à qu'est-ce que leur conscience dise, mais s'ils liraient la Bible, ils verraient le premier péché, c'est de pas suivre Dieu. Puis à part de l'ensemble des désobéissances. Fait qu'il y en aura bien plus, ils passeraient la semaine dans le confessionnal. Mais comme j'ai dit aussi, une personne humaine peut pas te pardonner tes péchés. Une offense, c'était faite à Dieu. C'est Dieu faut qu'il te pardonne. Puis il a déjà mis en place le système que Dieu a décidé de pardonner les gens. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Fait que tous les rituels puis les religions de purification, là, puis toutes les abstinences qui peuvent se mettre comme de jeûner ou de se fouetter, peu importe ce qu'ils se font pour essayer de gagner en faveur de Dieu, ça sert à rien. Dans Colossiens 2, 22, c'est l'apôtre Paul qui enseigne ça. Il dit, les préceptes qui sont là, ils ajoutent des préceptes, ils en mettent des préceptes. Ça, c'est des règlements dans leur religion. Ils tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est toutes ces lois-là d'église qu'ils ont rajoutées pour... que ce soit pour la purification, ou le méthode que, ou le sacrifice de messe, ou peu importe ce que la religion enseigne, là, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire, de l'humilité puis du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite puis contribuent à la satisfaction de la chair. Ça sert à rien les préceptes d'hommes. C'est pas Dieu qui a dit de faire ça, ça sert à rien. Puis la seule manière de savoir c'est quoi que Dieu dit, c'est de lire la Bible. Amen. Lire le Nouveau Testament, c'est là-dedans que tu sais ce que Dieu demande. Si t'as beau inventer ta religion, puis d'inventer des préceptes, puis des nouvelles méthodes, puis des nouveaux... Tout ça sert à rien. Ça sert rien qu'à satisfaire la chair. Dieu demande pas ça, il demande à suivre. Jésus a dit, suis ma parole. Toutes les œuvres charnelles libèrent pas des malédictions de Dieu, puis en plus, ça libère pas de la condamnation que Dieu a déjà déclarée sur l'humanité. Mais quand on parle du moyen que Dieu a donné pour qu'on puisse être sauvé, là, dans le nouveau chemin là, que Jésus a accompli, ça nous dit, la Bible elle dit que Jésus a pris sur lui notre malédiction. C'est là que ça rentre le principe. On était tous des gens maudits sous des mauvaises paroles que Dieu nous condamne. Puis dans Galates 3:13, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté de devenir maudit par Dieu. C'est une malédiction d'être crucifié sur la croix. C'est à déclarer dans la loi de Moïse. Puis Jésus a accepté de devenir, être maudit. Il a pris sur lui toutes les malédictions de l'humanité, puis il les a expiées à notre place. Il était le seul qui ne devait pas mourir, puis il ne devait pas être maudit, il devait être béni éternellement. Mais il a accepté d'être maudit pour prendre notre malédiction à notre place. Ça dit... Il dit, étant devenu malédiction pour nous. Fait qu'il est devenu une malédiction de Dieu. Il a pris sur lui nos péchés, puis il a expié nos péchés et les conséquences. La malédiction d'Adam et Ève et les malédictions dues à nos péchés. Le Messie a aussi été condamné pour remplacer notre condamnation, parce qu'on était sous la malédiction et la condamnation. Il fallait que lui soit condamné, puis il l'a été. Puis en même temps, il a accompli ce qui était écrit à son sujet, qui était pour le recevoir, cette condamnation-là. Dans Actes 13, 27, ça dit, « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Il relisait ça à chaque sabbat, les paroles du Messie. Puis il est arrivé au moment où il y avait le Messie devant les yeux, puis ils l'ont assassiné exactement de la même façon que c'était écrit à son sujet. Fait qu'imaginez, ces gens-là ne voyaient pas clair. Mais il fallait qu'ils soient condamnés pour prendre notre condamnation. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent à chaque sabbat. Toutes les malédictions puis la condamnation, ça venait de Dieu. Puis maintenant, le salut puis la guérison viennent aussi de Dieu. Ça vient de Dieu, mais ça s'obtient en Jésus. Maintenant, dans le nouveau chemin que Jésus a inauguré, Dieu tient plus compte des malédictions puis de la condamnation. Même si t'en avais fait une tonne de péchés qui étaient sur toi, en plus des malédictions d'Adam et Ève, t'avais tes propres malédictions, t'étais à sa condamnation, mais quand tu viens à Jésus, Dieu te juge pas. Pardonne. Il efface ta peine. Quand tu vas à lui, il ne te critiquera pas. Puis même plus que ça, il t'invite à venir à lui. On dit tel que tu es, là, c'est sûr qu'il faut que tu sois repentant, mais tel que tu es, ne cherche pas à te laver avant, puis de te purifier, puis de te sortir de tous tes péchés avant de venir à Jésus. Non. Tel que tu es, tu vas à lui, du moment que tu es repentant, tu veux changer, il va s'arranger de ta vie, il va te la changer. Dans Jean 5, 24, il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. » On voit deux choses là-dedans. Il faut écouter la parole de Jésus, puis il faut croire en Dieu le Père. Mais là, si tu crois, puis tu veux suivre, mais tu as la vie éternelle. Tu viens pas en jugement, mais tu es passé de la mort à la vie. À partir du moment que tu te convertis, tu passes de la mort à la vie. Il te condamne pas, il te jugera pas, il te prend tel que tu es, mais il décide, j'enlève toutes les malédictions, puis la condamnation qui était sur lui, puis t'es à mort. On était tous des morts, comme je vous disais tantôt, des séparés d'avec Dieu. À partir de ce moment-là, tu tombes à devenir vivant. Tu nais de nouveau, tu deviens un vivant. C'est grandiose. Il n'y a rien de plus important que ça sur la planète, qu'on naisse de nouveau. Il dit, ce qui compte, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui compte. Il n'y a pas d'autre chose qui compte dans la vie. C'est pas les religions, c'est pas la loi, c'est de devenir une nouvelle créature, puis ça, tu le deviens en allant à Jésus. Jésus a détruit notre papier qui indiquait chacune de nos transgressions, puis que ça nous condamnait. Il y avait une liste de péchés. Quand on venait à lui, il y a une liste qui était là, sur chacun de nous, une liste de péchés. Puis quand tu viens à lui, c'est une liste-là qu'il a détruit, il a déchiré, n'a plus besoin. Dans Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, est encore là contre nous, cet acte-là, mais il l'a détruit en la clouant à la croix. Cet acte-là, c'est comme un acte notarié, c'est une affaire qui est écrite, puis ça va s'accomplir. Les actes, là, un acte, là, dans le sens d'un acte, c'est comme un acte d'achat, là, c'est le papier que tu remplis, puis ça dure. Le temps qu'il va y avoir de la vie sur la terre, tes papiers aujourd'hui sont écrits, c'est un acte notarié, puis ça reste, puis ça s'accomplit tel que c'est écrit-là. Bon, ben, tous les actes qui étaient contre nous, qui nous condamnaient, ils les ont tous... Il n'y a plus d'acte. Il n'y a plus rien qui t'accuse de tout ton passé. Il a cloué ça à la croix. Grâce au Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus. C'est ça le chemin. Reste dans le chemin de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu marches en Jésus pendant toute ta vie, il n'y a aucune condamnation de la part de Dieu. Y a-tu de quoi de plus merveilleux? En dehors de cela, toutes les condamnations sont là. La malédiction et la condamnation sont déjà là. Mais si tu vas à Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. C'est quelque chose. Pensez que vous êtes des gens libérés de la condamnation de Dieu. Même si le juge sur la terre vous condamne, on s'en fout. Il dit, t'es chrétien, t'as pas le droit de parler de Jésus quand je te condamne à 5 ans de prison. So what? Si Dieu m'a pardonné, m'en va dans la vie éternelle. Je n'ai pas de condamnation de la part de mon Dieu. Dans Romains 8:1, ça dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vraiment hot, là. En demeurant Jésus, Dieu nous positionne sur le côté de sa bénédiction. Avant, on était sur le côté de la malédiction, mais si t'en vas, Dieu te positionne sur le côté de la bénédiction. Dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Lui qui a point épargné son propre fils puis qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, puis il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Qui va condamner un chrétien si Christ est là pour te défendre? Le seul avocat. Pour te défendre devant Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, notre position en Jésus, c'est une position déjà de victoire, de bénédiction. Si Dieu est avec toi parce que tu as décidé d'embarquer dans son chemin, il n'y a qu'un seul chemin. On a embarqué dans son chemin, Dieu a décidé qui enlève les malédictions, il enlève la condamnation, puis il a décidé de commencer à te bénir. Puis en plus de ça, il va être avec toi, même pour te défendre s'il y en a qui essayent de t'accuser. Y en a-tu qui nous accusent? Le diable nous accuse. Il nous trouve des défauts. Oh oui, il sait que j'en ai, il n'a pas envie de me le dire. Mande à ma femme, elle me dit, on a tous. On n'est pas parfait, mais Dieu les connaît aussi, puis Dieu, quand tu demandes pardon, il te les pardonne à mesure, tout est effacé, il n'y a pas de condamnation, puis il a hâte au jour qu'on arrive devant lui pour nous prendre avec lui, puis nous bénir bien comme il faut pour l'éternité, puis on va l'être. Amen. On va faire une prière pour classe là. Seigneur, je te remercie de ton œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous sommes vraiment conscients de tout ce que tu as accompli par ta mort et ta résurrection. Tu as pris sur toi notre malédiction et notre condamnation. Tu as accepté de devenir maudit et tu as accepté de devenir condamné à notre place. Pour nous. Seigneur, tu nous as délivrés de la condamnation éternelle, puis tu nous as délivrés des malédictions. Merci, Seigneur. Merci de ton salut. Merci d'un si grand salut. Merci de l'œuvre que tu as accomplie. Merci de ce nouveau chemin que tu nous donnes, que tu nous as appelés, puis que tu nous conduis dans tout cela. Puis merci, merci, merci pour tout, Seigneur. On veut te rendre la gloire qui te revient dans toutes choses, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. C'est vrai. Si le juge est sur ton bord, pas en plus l'avocat, c'est l'avocat de la couronne. Oublie ça.